en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Academy vous propose un colloque consacré à une discipline pour le moins originale, l'astro-égyptologie. Originale et très utile, dans le contexte de l'Égypte ancienne, l'astro-égyptologie a en effet abouti à la révision des dates de début de règne de plusieurs pharaons, également à la cartographie des constellations peuplant le ciel méridional de l'Égypte ancienne, et enfin à la formulation d'une toute nouvelle hypothèse orientationnelle concernant les pyramides de l'ancien empire, ainsi que des temples d'Isis et Hathor de Dantera. Nous vous proposons sans plus tarder de suivre les explications détaillées de Karine Gadré, astrophysicienne à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Elle vient de terminer sa thèse consacrée à l'archéo-astronomie ou histoire de l'astronomie en travaillant plus spécifiquement sur l'astronomie en Égypte ancienne. Précisons que cette communication avait lieu dans le cadre des conférences du Bureau des Longitudes qui ont lieu tous les mois à l'Institut de France et qui sont toujours ouvertes au public. Tout de suite, Karine Gadré.
Bonjour, merci d'être venu si nombreux tout d'abord, ça fait plaisir. Et puis merci aux membres du Bureau des Longitudes d'accueillir cette présentation sur le thème de l'archéoastronomie, qui est assez peu étudié en France. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter les méthodes qui sont utilisées dans le domaine de l'archéoastronomie et on va voir quelques exemples applicatifs à l'Égypte ancienne. Ces travaux ont été en grande partie réalisés au laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes, sous la direction de Sylvie Roch, qui en est aussi la directrice. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'archéoastronomie ? Alors ce terme, il regroupe deux termes, archéologie et astronomie. Plus spécifiquement, l'archéoastronomie consiste en l'étude de l'orientation ou du contenu astronomique de vestiges archéologiques. Ces vestiges, ils peuvent être de différentes natures, architecturales, pariétales ou bien encore textuelles. La découverte des vestiges archéologiques incombe aux équipes de fouilles archéologiques. En revanche, l'étude du contenu ou de l'orientation astronomique de ces vestiges incombe aux astronomes, aidés bien souvent des historiens qui leur donnent des repères spatiaux et temporels. En quoi consiste la démarche archéo-astronomique ? Alors, tout d'abord, il s'agit de constituer une base de données archéologiques qui rassemble des vestiges qui tous présentent des similitudes. Par exemple, un échantillon constitué des pyramides d'Égypte. Ensuite, on va étudier l'orientation ou le contenu de cette base de données archéologiques, donc de ces vestiges constituant la base de données archéo, et on va en déduire les conditions spatiales, temporelles et optiques d'observation astronomique. On verra ensuite tous ces points dans le détail un peu plus tard. Troisième point, on va développer des modèles qui combinent des paramètres astrométriques, et divers critères de visibilité d'un objet dans le ciel local. Et enfin, on va appliquer aux résultats fournis par le modèle divers critères astronomiques et archéologiques, voire historiques, afin de déduire le ou les résultats les plus probables. Alors, les études archéo-astronomiques qui ont été menées à ce jour nous ont permis de mieux comprendre la culture d'un peuple ou d'une civilisation. L'intérêt, par exemple, d'un peuple donné pour un objet céleste donné, le soleil, telle étoile, la lune, et le culte afférent, le culte d'Osiris, par exemple. De telles études nous ont également permis d'affiner des datations proposées par les historiens et les archéologues. Datation de l'époque de construction d'un monument ou encore du règne d'un pharaon en Égypte ancienne. Ces études nous ont également permis de dater des événements astronomiques passés, à caractère périodique ou non, à savoir des éclipses de lune ou de soleil, des explosions de supernova. Et enfin, de paramétrer le temps terrestre. Le temps terrestre, c'est une échelle de temps qui intervient dans les équations de mécanique céleste en lieu et place du temps universel qui, lui, est lié à la rotation de la Terre et présente un caractère pas tout à fait uniforme. Alors, à la lueur des études archéo-astro menées à ce jour, il apparaît que les peuples de l'Antiquité ont établi quelques fondements de l'astronomie moderne. Parmi ces fondements figure la définition des grands cercles de la sphère céleste, l'horizon, l'écliptique ou bien encore l'équateur céleste par rapport auquel les anciens Égyptiens, les Mésopotamiens et les Chinois effectuaient leurs observations. Ces observations, elles ont conduit à la classification des objets célestes en catégories, c'est-à-dire à l'établissement des premiers catalogues d'étoiles. On connaît tous ou presque le catalogue de Ptolémée, qui date du IIe siècle de notre ère et qui, à l'époque, contenait un millier d'étoiles. Ces études antiques ont également permis de mettre en évidence l'existence des cycles stellaires, lunaires, planétaires, et donc elles ont conduit à l'établissement des premiers calendriers, solaire en Égypte ancienne, lunaire en Mésopotamie, lunisolaire en Chine. Et enfin, les anciens ont également mis en évidence la survenue d'événements particuliers, donc comme les éclipses de soleil ou l'explosion d'une supernova. Là, il s'agit de la nébuleuse du crabe. Alors, comme je vous le disais, les notions de classification, de périodicité et de référentiel qui ont été établies par les peuples de l'Antiquité sont fondamentales. Elles ont été transmises aux Grecs, puis aux astronomes arabes et enfin à l'Occident. Aujourd'hui encore, certaines missions spatiales se fixent pour objectif de constituer des bases de données toujours plus étendues, des bases de données stellaires ou bien encore extragalactiques. L'évolution de l'instrumentation, de la qualité optique de l'instrumentation, nous permet aujourd'hui d'étendre ces bases de données à des objets que l'on ne connaissait pas à l'époque, comme des quasars ou des galaxies. Et certaines de ces missions ont permis la définition de nouveaux référentiels spatiaux qui sont quasiment fixes dans l'espace, comme le système ICRS, qui est centré sur le barycentre du système solaire et dont les axes pointent en direction d'objets lointains, des quasars, dont la précision est connue, dont la position est connue avec une très grande précision et varie très peu au fil du temps. L'Égypte ancienne maintenant. La civilisation égyptienne, elle s'est constituée le long de la vallée du Nil, ici, entre le delta et Assouan, au cours du 4e millénaire avant notre ère. Comme vous le savez, les vestiges en provenance de cette civilisation se comptent par milliers, voire par millions. Pour autant, on pense ne connaître que 30% des vestiges de l'Égypte ancienne. Parmi ces 30% de vestiges, nous, on va s'intéresser à ceux qui présentent une orientation ou un contenu astronomique particulier. On va voir deux exemples d'application de la démarche archéo-astronomique que je vous ai brièvement présentée en introduction. Tout d'abord, on va étudier, dans ce qui suit, les arrangements stellaires qui caractérisent les horloges stellaires et les listes d'étoiles retrouvées en Égypte ancienne. On en déduira une cartographie du ciel de l'Égypte ancienne, autrement dit, le positionnement des constellations égyptiennes sur la voûte céleste. Deuxième type d'étude, l'orientation astronomique des pyramides d'Égypte et du temple d'Isis à Dendera. Et on en déduira l'intérêt des anciens Égyptiens pour un type particulier d'étoiles. Et ensuite, nous verrons diverses perspectives de travail à court et moyen terme. Alors, tout à l'heure, il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'étoile Sirius, du Soleil, de la constellation d'Orion. Ces objets célestes, de nombreux textes égyptiens y font référence. Notamment le mythe d'Osiris, qui est un mythe fondateur pour l'Égypte ancienne. Ce mythe, il figure sous la forme de fragments sur l'intérieur des parois des pyramides, ainsi que sur les parois internes et extérieures de sarcophages datés de l'an 2300 à l'an 1800 avant notre ère. Que nous dit ce mythe ? D'après ce mythe, Osiris, lorsqu'il était pharaon d'Égypte, aurait été assassiné par son frère Seth, qui était fou de jalousie à son égard. Lorsque ses sœurs, Isis et Nephthys, retrouvèrent son corps, elles le découvrirent dans un état de putréfaction relativement avancé. Les textes nous disent que ce sont les humeurs d'Osiris qui remplissent les canaux et les rivières, ce qui explique la fréquente assimilation du corps d'Osiris avec l'inondation, la crue du Nil. Afin de restituer à Osiris, à son corps, son intégrité, Isis et Nephthys, qui figuraient sous l'aspect de mille ans femelles, entreprirent de l'embaumer. Ainsi, Osiris, selon le mythe, put quitter la terre, monter au ciel, rejoindre sa mère Nout, la déesse du ciel. Nout, en tant que mère d'Osiris, porte Osiris en son sein et lui redonne naissance. Celui-ci va réapparaître à l'est du ciel, dans les lueurs de l'aube. En d'autres termes, Osiris défunt est devenu une étoile qui effectue son lever héliaque dans le ciel d'Égypte. Ici figure le soleil sous l'aspect du pharaon, du scarabée Khepri, pardon. C'est le soleil levant. D'après les textes, cette renaissance d'Osiris avait lieu au moment de la crue du Nil, c'est-à-dire vers la mi-juillet. Et à cette époque de l'année, l'étoile Sirius et les étoiles de la constellation d'Orion effectuaient leur lever héliaque après être disparues durant 70 jours, qui est le temps de la momification. Pour cette raison, un lien est fréquemment établi entre Osiris et ses étoiles. Plus généralement, entre Osiris et l'ensemble des étoiles dont la période d'invisibilité annuelle était voisine de 70 jours aux lieux et époques considérés. Ces étoiles, elles sont au nombre de 90. Leurs appellations hiéroglyphiques, elles figurent sur l'intérieur du couvercle de sarcophage, sur la surface extérieure de Clepsydre, au plafond de temples et de tombes qui ont été érigés entre Alexandrie au nord et Assouan au sud, entre l'an 2200 et l'an 50 avant notre ère, environ. Les progrès effectués par les linguistes, par les égyptologues linguistes, depuis l'époque de Champollion, nous permettent aujourd'hui de connaître la signification de l'appellation hiéroglyphique de la plupart de ces étoiles. Il apparaît que certaines étoiles incluent dans leurs appellations un même terme, le terme « sa » par exemple. Cela signifie que les anciens Égyptiens connaissaient, enfin plutôt avaient défini une constellation qui portait le nom de « sa ». La plupart de ces constellations sont figurées sous forme animale, certaines sous forme humaine. C'est le cas de la constellation Sa, dont on distingue Messenger, l'oreille, Iyun, la colonne vertébrale, Waret-Keret, la jambe inférieure, Waret-Eret, la jambe supérieure. On note également l'existence des étoiles Tepi-Sopède, Sopède, ou bien encore, ici, Chetoui, les deux tortues. Les travaux réalisés par les égyptologues au début du XXe siècle ont permis d'associer avec certitude l'étoile Sopède à Sirius et la constellation Sa avec Orion. Mais nous ne connaissons aucune autre, enfin nous ne savons pas identifier les autres étoiles égyptiennes. Donc ça va être le but du travail que je vais vous présenter maintenant, identifier ces étoiles aux étoiles que nous connaissons à l'heure actuelle, à des étoiles visibles à l'œil nu bien entendu. Donc le but c'est de cartographier le ciel des anciens Égyptiens. Pour cela on va reprendre la démarche archéo-astro que je vous ai présentée en introduction. Donc on va examiner le contenu des 100 vestiges sur lesquels sont mentionnées ces 90 étoiles. L'étude de leur contenu va nous permettre de définir les conditions spatiales, temporelles et optiques d'observation de ces étoiles. Ensuite, on va construire un modèle de visibilité d'étoiles à l'œil nu dans le ciel de l'Égypte ancienne, qui combine certains paramètres astrométriques et divers critères de visibilité. Ensuite, on va examiner la succession des levées et culminations d'étoiles en relation avec les listes d'étoiles dont nous disposons. Et enfin, nous allons appliquer divers critères astronomiques et égyptologiques aux étoiles obtenues afin d'identifier chacune des étoiles égyptiennes avec le maximum de certitude ou le minimum d'improbabilité, comme on veut. Alors, tout d'abord, la base de données archéo. Je vous l'ai dit, on dispose de 100 vestiges. Parmi ces 100 vestiges figurent 20 horloges stellaires qui ont été peintes sur l'intérieur du couvercle de sarcophages datés des environs de l'an 2000 avant notre ère. Ces horloges stellaires, on peut les transformer sous forme de liste de levées héliaques d'étoiles, tout simplement en prenant simplement les étoiles mentionnées. Si on fait ça, on se rend compte que les horloges stellaires, les 20 horloges stellaires, se scindent en deux types de listes. Les listes de type GEMAT, qui mentionnent les décans de la constellation GEMAT en première et seconde position, et les listes de type Kenmet, qui mentionnent les décans de la constellation Kenmet en première et seconde position. Donc on a déjà deux prototypes de listes d'étoiles issues de ces 20 horloges stellaires. Mais la base de données est également constituée de 80 autres listes d'étoiles qui, elles, ont été peintes au plafond de temples de tombes, ainsi que sur la surface extérieure de Clepsydre, des horloges à eau, datées de l'an 1500 à l'an 50 avant notre ère. Ces 80 listes d'étoiles se répartissent en 4 types de listes, nommées Senenmut, Seti1C, Seti1A et Seti1B. Donc, au total, on dispose de 100 listes d'étoiles réparties en 6 types de listes, GEMAT, Kenmet, Senenmut, Seti1C, Seti1A et Seti1B. Le prototype des listes de type Senenmut figure au plafond de la tombe de Senenmut à Deir el-Bahari. Deir el-Bahari, c'est pas très loin de Thèbes, pas très loin de la vallée des rois. Senenmut, c'était l'architecte de la reine Hatshepsut. On dit aussi que c'était son amant. Il a vécu vers l'an 1450 avant notre ère à peu près. Voilà. Autre type de liste, les listes de type Seti1C qui figurent au plafond, enfin dont un prototype figure au plafond de la tombe de Seti Ier à Thèbes Ouest. Donc ça date des environs de l'an 1300 avant notre ère. Autre type de liste maintenant, les listes de type Séti 1A et Séti 1B, dont les prototypes figurent au plafond du cénotaphe de Séti Ier à Abydos. Abydos, c'est en Moyenne-Égypte. Donc au total, 6 types de listes. Les 5 premiers, Djemat, Kenmet, Senenmout, Séti 1C et Séti 1A, ces 5 prototypes mentionnent les étoiles dans l'ordre de leur levée héliaque et nocturne. En revanche, les listes de type Séti 1B mentionnent les étoiles dans l'ordre de leur levée héliaque et de leur culmination dans le méridien du lieu. Alors, il nous faut à présent dater ces prototypes de listes d'étoiles pour définir les conditions spatiales, temporelles et ensuite optiques d'observation. Pour dater ces prototypes de listes, on utilise une information qui est contenue dans ces listes d'étoiles, à savoir les arrangements stellaires, la position occupée par certaines étoiles clés. La position occupée par l'étoile Sirius, par exemple, sur les listes de type GEMAT, nous conduit à les dater d'une époque comprise entre l'an 2101 et l'an 2022 avant notre ère, c'est-à-dire de la dynastie 12, qui est une époque intermédiaire entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire. Ensuite, les listes de type Kenmet. Pour la plupart, elles sont fragmentaires et l'étoile Sirius n'est pas mentionnée. En revanche, elle mentionne les décans de la constellation GEMAT en 5e et 6e position, alors qu'ici, figurait en première position. Ce décalage, il s'explique par le vagabondage de l'année civile égyptienne, auquel un jour n'était pas ajouté tous les 4 ans. Donc, ce décalage permet de connaître l'époque de conception de ce prototype de liste, l'une des années comprises entre l'an 1941 et l'an 1862 avant notre ère, c'est-à-dire la dynastie 12, le Moyen Empire. Les listes de type Senenmout, Séti 1C et Séti 1A maintenant. Alors, ce sont des listes complètes pour la plupart, ce qui signifie qu'elles mentionnent à la fois l'étoile Sirius et les décans de la constellation GEMAT. Ces deux informations nous conduisent à deux datations relativement semblables et différentes à la fois. Il y a un petit décalage en fait entre les informations déduites de la position occupée par Sirius et de la position occupée par les décans de la constellation GEMAT. Décalage de 80 ans, à peu près. Ensuite, les listes de type Séti 1B. Donc là, les informations contenues vont toutes dans le même sens, dans le sens d'une datation comprise entre l'an 1880 et l'an 1842 avant notre ère. Alors, notre datation des listes de type GEMAT et Kenmet se trouve confirmée par la datation archéologique des sarcophages sur l'intérieur du couvercle desquels figurent les horloges stellaires associées. Notre datation des listes de type Séti 1B trouve confirmation dans un passage du papyrus El Laoun qui mentionne le lever héliaque de l'étoile Sirius sous le règne de Sésostris III, vers l'an 1870 avant notre ère. En revanche, on n'a pas de confirmation archéologique ou historique de nos propositions de datation de ces trois types de listes. Ce qui est sûr, c'est que ces trois types de listes ont été conçus entre les listes de type Kenmet et avant, bien sûr, l'époque d'édification des édifices sur lesquels les prototypes de ces listes figurent. Autrement dit, les listes de type Senmout ont nécessairement été conçues entre l'an 1900 avant notre ère et l'an 1450 avant notre ère, époque de Senmout. Les listes de type Séti 1C et Séti 1A ont été construites entre l'an 1900 avant notre ère et l'an 1300 avant notre ère, époque de règne de Séti Ier. On tiendra compte de cette incertitude par la suite et je reviendrai dessus. La latitude du site d'observation à présent. Je vous ai dit tout à l'heure que les 100 vestiges, les 100 types de listes, ont été retrouvés tout le long de la vallée du Nil entre Alexandrie au nord et Assouan au sud. Je vous ai dit également que ces types de listes mentionnent les étoiles dans l'ordre de leur lever héliaque successif, à 10 jours d'intervalle. Or, on sait que le lever héliaque d'une étoile survient d'autant plus tard que l'on monte en latitude. Exemple pour Sirius, son lever héliaque peut être observé le 11 juillet de cette époque, donc vers l'an 2070 avant notre ère, le 11 juillet à Assouan. En revanche, il sera observé le 17 ou 18 juillet à Memphis. Alors, cette réalité astronomique est-elle compatible avec les listes d'étoiles dont nous disposons? Autrement dit, les listes d'étoiles, les 6 prototypes de listes d'étoiles, traduisent-ils une réalité observée? La réponse est oui, parce qu'en fait, le laps de temps sur les prototypes de liste d'étoiles, le laps de temps qui sépare deux levées héliaques successifs d'étoiles est de 10 jours. Et ce laps de temps, il est supérieur aux 7 degrés qui séparent Alexandrie d'Assouan. Donc ces listes d'étoiles n'étaient pas caduques et s'adaptaient à tout lieu de latitude égyptienne. Alors, pour autant, on ne connaît pas la latitude du site d'observation. Il va falloir qu'on la déduise d'un autre type de données, d'une donnée qu'on n'a pas encore exploitée, à savoir la période d'invisibilité annuelle des étoiles. On sait que celle de Sirius est égale à 70 jours. On sait par ailleurs que la période d'invisibilité annuelle d'une étoile dépend de sa magnitude apparente, de la latitude du site d'observation et de la distance de l'étoile à l'écliptique. Alors pour ce qui concerne Sirius, on connaît sa magnitude apparente, moins 1.44. On connaît sa distance à l'écliptique vers l'an 2000 avant notre ère, c'est moins 35 degrés à peu près. Donc on est en mesure d'établir une relation directe entre sa période d'invisibilité annuelle et la latitude du site choisi pour l'observation. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce qui suit. Tout d'abord, on va définir ce qu'est la période d'invisibilité annuelle d'une étoile. C'est le laps de temps qui sépare son jour de coucher héliaque de sa date de lever héliaque. Durant cet intervalle, l'étoile et le Soleil se trouvent à si grande proximité l'un de l'autre que l'étoile ne peut être observée dans le ciel. La brillance du ciel est trop élevée. En particulier au jour de conjonction de l'étoile avec le Soleil, cette distance est minimale. En ce jour précis de l'année, les ascensions droites de l'étoile et du Soleil sont les mêmes. Leur culmination s'effectue simultanément. Donc toute étoile qui sera visible en ce jour de conjonction avec le Soleil sera considérée comme visible toute l'année. C'est le cas des étoiles circumpolaires, par exemple, comme la Grande Ourse ou le Dragon. En revanche, toute étoile qui est invisible en son jour de conjonction avec le Soleil possède une période d'invisibilité annuelle non nulle. Donc on pourra rechercher ses dates de coucher et de lever héliaque et en déduire sa période d'invisibilité annuelle. Alors les étoiles que l'on va considérer, ce sont les étoiles de magnitude visuelle inférieure ou égale à 6. Le catalogue Hipparchos en compte 5041. Et on va tenter d'identifier les 90 décans égyptiens à quelques-unes des 5041 étoiles du catalogue Hipparchos. Alors pour ce faire, donc on va constituer un modèle qui combine, je vous le disais tout à l'heure, des paramètres astrométriques et des critères de visibilité. Parmi les paramètres astrométriques figurent le mouvement qui anime chaque étoile, mouvement propre et vitesse radiale, les effets de parallaxe, d'aberration et relativiste, ainsi que les mouvements qui animent l'axe de rotation de la Terre, tels que le mouvement de précession, nutation. Et pour déterminer le jour de conjonction de chaque étoile avec le Soleil, il nous faut également considérer le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil. Alors, sur la date de coucher et de lever héliaque de chaque étoile, on admettra une erreur d'une journée. Ce qui nous permet de définir une incertitude de 15 minutes d'arc. Cette incertitude, elle est suffisamment grande pour pouvoir négliger certains des paramètres astrométriques. Donc on prendra en compte essentiellement le mouvement propre à chaque étoile, le mouvement de précession-nutation et le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil. Les critères de visibilité d'une étoile à présent. Alors, parmi ces critères figurent les caractéristiques propres à l'étoile, à savoir sa magnitude apparente, son indice de couleur, ou bien encore sa hauteur au-dessus de l'horizon. On sait que plus une étoile est élevée au-dessus de l'horizon, plus on a de chances de l'apercevoir. Les conditions atmosphériques locales, donc température et humidité de l'air ambiant, donc à l'époque de l'Égypte ancienne. Ensuite, la hauteur du Soleil sous l'horizon et sa distance à l'étoile, qui permet de définir la brillance du ciel en lieu et place de l'étoile. Et enfin, l'acuité visuelle de l'observateur, que l'on connaît sous l'appellation de rapport de Snellen. Tous ces critères nous permettent de quantifier l'augmentation de magnitude apparente causée par l'extinction atmosphérique, par la présence de l'atmosphère. Et tous ces critères vont nous permettre de déterminer le seuil de détection d'une étoile à l'œil nu dans le ciel de l'Égypte ancienne. On va revenir deux petites secondes sur le rapport de Snellen. Je vais vous indiquer comment on l'a déterminé. Alors, tout simplement, en étudiant 6 ou 7 écrits qui datent de l'Égypte ancienne et qui mentionnent la survenue du lever héliaque de Sirius dans le passé de l'Égypte. Parmi ces écrits figure le papyrus El Laoun qui mentionne la survenue du lever héliaque de Sirius sous le règne du pharaon Sésostris III. On a le calendrier Ebers qui mentionne le lever héliaque de Sirius sous le règne du pharaon Amenhotep I. Et on a un texte de fondation du temple d'Hathor à Dendera qui dit que ce temple a été fondé le jour du lever Iliac de Sirius à Dendera, le 16 juillet 54 avant notre ère. Grâce à ces trois vestiges et trois quatre autres, on arrive à déterminer le rapport de Snellen et donc l'acuité visuelle des anciens Égyptiens, et à la fixer à 1,70 sur une échelle qui va de 0 à 2. C'est pas mal, ça montre que les Égyptiens étaient dotés d'une très bonne acuité visuelle. Donc après avoir déterminé le jour de conjonction de chaque étoile avec le soleil, après avoir testé la visibilité de chaque étoile avec le soleil en ce jour de conjonction, après avoir isolé chacune des étoiles invisibles en son jour de conjonction avec le soleil, on a déterminé leur date de coucher et de lever Iliac en appliquant les fameux critères de visibilité, et on en a déduit leur période d'invisibilité annuelle. Alors ces résultats nous permettent de revenir sur une question qu'on s'était posée auparavant, à savoir quelle est la latitude du site d'observation. Si on effectue ces calculs pour une latitude égale à 30 degrés, donc Memphis, Le Caire, on se rend compte qu'on obtient pour Sirius une période d'invisibilité annuelle voisine de 70 jours. Donc on imagine que la plupart des observations des étoiles des canals ont été menées en ce lieu de latitude voisin de 30 degrés. Alors maintenant, ce qu'il nous faut faire pour identifier des camps égyptiens, c'est restreindre l'échantillon de 1166 étoiles dont la période d'invisibilité annuelle est comprise entre 50 et 90 jours au Caire vers l'an 2000 avant notre ère. Pour ce faire, on va examiner la succession des levées et culminations d'étoiles dans le ciel de l'Égypte ancienne en relation avec les listes dont nous disposons. Ainsi, on obtiendra un échantillon d'étoiles candidates à chacun des 90 des camps égyptiens. Et ensuite, pour restreindre cet échantillon, la taille de cet échantillon, on va appliquer à chacune des étoiles de l'échantillon considéré des critères à la fois astronomiques et égyptologiques. En d'autres termes, on va privilégier les étoiles de magnitude apparente relativement faible, donc de brillance élevée, dont la localisation spatiale et l'indice de couleur expliquent au mieux la signification de l'appellation hiéroglyphique du décan considéré, ainsi que l'imagerie céleste associée. De cette façon, on va restreindre l'échantillon au strict minimum. Donc au final, on parvient à identifier nos 90 décans égyptiens avec 175 étoiles de magnitude visuelle inférieure ou égale à 5. Alors ces étoiles se situent pour la plupart sous l'écliptique, Sirius en matérialisé extrémité. Les résultats obtenus, ils résistent à des variations d'époque historique, ce qui nous permet d'inclure, plutôt de négliger ou de prendre en compte l'incertitude qui caractérise notre datation de trois types de listes, Snellenmuth, Seti1A et Seti1C. Ces identifications, elles résistent à des variations de latitude géographique, de 30 degrés à 25 degrés, et elles résistent à des variations d'acuité visuelle de l'observateur de l'ordre de 2 dixièmes. Concrètement, qu'est-ce qu'on obtient ? Messager-SA, maintenant, on peut l'associer à Lambda Orionis, Iunsa, la colonne d'Orion, à Zeta Tauri, etc., etc. Bon, donc, seconde partie, on va s'intéresser à l'orientation astronomique de quelques édifices égyptiens. Je vous ai sélectionné les pyramides d'Égypte et le temple d'Isis à Dendera. Pourquoi ? Pour leur relation avec le mythe d'Osiris. On va voir pourquoi. L'ensemble, on a remarqué quelque chose quand on superpose une carte de l'Égypte avec une carte des vestiges archéologiques, on remarque que l'ensemble des édifices qui ont été édifiés le long, à l'est de la vallée du Nil, donc là où le soleil se lève, ce sont des temples dans lesquels sont célébrés des cultes de vie, des cultes à des dieux et des déesses. En revanche, l'ensemble des édifices qui sont situés à l'ouest du Nil, donc là où le soleil se couche, sont des tombes ou des temples funéraires, donc dans lesquels sont pratiquer des cultes funéraires. Alors la question que je me suis posée, c'est de savoir si l'orientation astronomique de ces édifices s'inscrivait également dans le cadre de ce mythe, à savoir à l'est la naissance, à l'ouest la mort. Donc en gros, on va essayer de répondre à la question de savoir si les pyramides d'Égypte, qui sont des tombes, ont été orientées en direction de la position de coucher d'étoiles, si oui, lesquelles ? Et est-ce que le temple d'Isis à Dendera a été orientée en direction de la position de levée d'étoiles, et si oui, laquelle ? Les pyramides, tout d'abord. Elles ont été érigées entre l'an 2700 et l'an 2200 avant notre ère, pour ce qui est des pyramides de l'Ancien Empire. Alors, on a relevé sur 11 pyramides de l'Ancien Empire, les mieux préservées à l'heure actuelle, les écarts à l'alignement est-ouest, alignement cardinal donc. Et on remarque que la plupart d'entre elles, 9 d'entre elles, ont un écart à l'orientation est-ouest inférieur à 0,5 degré. En revanche, pour ce qui concerne les pyramides de Djoser ou Sahuré, cet écart atteint 3 ou 2 degrés. Donc, l'objectif de ce qui suit, c'est de déterminer là où les étoiles, dont l'observation de l'azimut de lever ou de coucher, dans le ciel nocturne ou crépusculaire de l'Égypte ancienne, a pu conduire à l'orientation de ces édifices. Pour cela, on constitue un modèle à partir des mêmes paramètres astrométriques que ceux que je vous ai définis tout à l'heure et des mêmes critères de visibilité. On insère dans l'interface de chaque modèle les caractéristiques propres à chacune des 11 pyramides en question. Là, il s'agit de la pyramide de Khéops. Donc, année d'édification, latitude du site, hauteur, acuité visuelle de l'observateur, azimut d'orientation, etc. On va obtenir un échantillon d'étoiles candidates à l'orientation de chacune des 11 pyramides en question. Et qu'est-ce qu'on observe quand on compare ces 11 échantillons ? L'observation de deux étoiles a pu conduire à l'orientation de l'ensemble des 11 pyramides en question. Ces deux étoiles, ce sont Alpha Canis Minoris et Gamma Corvi. Alpha Canis Minoris, c'est Procyon, une étoile relativement brillante, très brillante même, 150 fois plus brillante que Gamma Corvi. Donc on va essentiellement s'intéresser à celle-ci. On va retracer ces azimuts de lever et de coucher héliaque, et de coucher nocturne aussi, dans le ciel de l'Égypte ancienne, à l'époque historique considérée. Et qu'est-ce qu'on observe ? Qu'il est fort probable que l'observation de l'azimut de coucher de l'étoile Alpha Canis Minoris ait conduit à l'orientation astronomique de la pyramide de Djoser, et que l'observation de l'azimut de coucher héliaque de cette même étoile ait conduit à l'orientation astronomique de 9 autres pyramides, à l'exception de celle de Sahuré. En fait, il se trouve que celle de Sahuré, son écart à l'orientation est-ouest résulterait de l'observation de l'azimut de coucher héliaque de l'étoile Beta Canis Minoris. Alpha et Beta Canis Minoris, ce sont deux étoiles situées à relative proximité l'une de l'autre. Donc une erreur est toujours possible. Quoi qu'il en soit, de ce travail, on déduit qu'il est fort probable que l'écart à l'orientation est-ouest des pyramides de l'Ancien Empire résulte de l'observation de l'azimut de coucher, héliaque ou nocturne, d'un couple d'étoiles, Alpha et Beta Canis Minoris. Qu'en est-il pour le temple de Dendera ? Le temple d'Isis ? Ce temple, il a été érigé à trois dates, à trois époques successives. Dans les fondations de ce temple ont été retrouvés des blocs qui datent de l'époque de Noctanebo Ier. C'est un pharaon de l'époque ptolémaïque qui a régné vers l'an 330 avant J.C. Et dans ces soubassements, on a retrouvé des blocs de facture ramesside, donc qui datent de l'époque du pharaon Ramsès II, vers l'an 1300 avant notre ère. En gros, ce temple donc a été réédifié à trois époques successives au moins, vers 1300, vers 330 et vers 30 avant notre ère. Et il se trouve que l'axe principal de ce temple a varié, son orientation a varié au fil du temps. Donc l'utilisation du modèle, qui permet de définir la source astronomique de tout édifice, montre que à chaque fois, dans chacun des trois cas, l'étoile utilisée pour orienter l'axe principal du temple, c'est Sirius. Sous le règne de Ramsès II, c'est son lever nocturne qui a été utilisé. Sous le règne de Nectanebo, c'est son lever héliaque. Et sous le règne d'Auguste, c'est de nouveau son lever nocturne. Donc, on en arrive à la conclusion que ce temple a été, non seulement il se situe à l'est du Nil, mais il a été orienté en direction de la position de lever d'étoiles. Donc, ce qui serait peut-être intéressant à terme, ce serait d'établir une relation entre la localisation spatiale des édifices égyptiens, donc est-ouest du Nil, et leur orientation astronomique en direction des positions de lever d'étoiles ou de leur position de coucher. Et troisième question qui serait intéressante de résoudre, est-ce que les étoiles utilisées pour orienter ces temples sont parmi les 175 étoiles candidates aux 90 décans égyptiens ? Si on arrive à répondre à ces trois questions, alors on pourrait établir de façon certaine un lien entre le mythe d'Osiris et puis l'architecture égyptienne dans son ensemble. Voilà, je vous remercie.
Vous venez d'entendre Karine Gadré, astrophysicienne, sur le sujet passionnant et original de l'astro-égyptologie, une conférence organisée par le Bureau des Longitudes à l'Institut de France en janvier 2008. Pour en savoir plus sur les questions d'astro-égyptologie ou plus largement d'archéo-astronomie, visitez le site internet de Karine Gadré. Elle met à disposition de tous ses travaux sur le www.culturedif.org. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions sur Canal Académie.